France Inter, le 18-20.
La bataille contre les ordonnances n'est pas terminée, en tout cas pas pour la CGT qui appelle à une nouvelle manifestation demain jeudi, la CGT seule en l'état. À cela viennent se greffer les débuts de consultation sur le prochain grand chantier, assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, au milieu les polémiques sur le budget, l'ISF visiblement qui souffre encore de manque de pédagogie. Voilà pour les sujets dans les grandes largeurs qui mobilisent l'opinion aujourd'hui. Pour le reste, salariés, indépendants, chefs d'entreprise, fonctionnaires, chômeurs, c'est à vous de faire le programme avec vos questions, les pour, les contre. Ce soir, ils sont deux pour y apporter des réponses. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Bruno Bonnel, député La République En Marche de la 6e circonscription du Rhône. À vos questions, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
C'est vous qui ouvrez le bal, Francis. Bonsoir à vous, bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs de France Inter. Ma question va être très simple et générale. En fait, dans ces lois de M. Macron concernant le travail, qu'est-ce qui va, c'est-à-dire qui est très bien, et qu'est-ce qui ne va pas, qui est donc lamentable? Merci.
Merci pour votre question simple et claire, Francis, Philippe Martinez. Tiens, c'est avec vous qu'on commence. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sauvez quand même dans ces lois?
Bonsoir.
Bonsoir.
Dans ces lois, une chose peut-être, c'est le fait de reconnaître qu'il existe des discriminations syndicales en France et que quand on est élu du personnel, représentant des salariés, eh bien, on a des problèmes de carrière. Et donc, ça fait plusieurs décennies que la CGT se bat pour reconnaître ce fait. On peut parler de dialogue social, mais si dès qu'on a un élu dans son entreprise, on pense qu'à le licencier. Oui, donc voilà, c'est la...
Vous vous sentez mieux protégé, en tout cas.
J'ai pas dit ça. Oui. J'ai dit qu'on reconnaissait enfin que la discrimination syndicale existait. C'est la seule mesure positive que nous voyons dans ces ordonnances. Pour le reste, c'est tout pouvoir pour les patrons et beaucoup de contraintes pour les salariés.
Aujourd'hui encore, si vous deviez pointer deux choses qui ne passent pas, deux ou trois, on va dire, qui ne passent pas dans l'ensemble de ces lois de travail, qu'est-ce que vous mettez en tête? Qu'est-ce que vous mettrez en tête de votre cortège demain?
C'est difficile de faire ce choix-là. Je vais m'y risquer. Remise en cause des indemnités
prud'homales,
plafonnement, y compris plafonnement... même si on a élevé le plancher pour les 10 premières années, même jusqu'au bout, la ministre ne nous aura pas dit toute la vérité, puisque donc c'est moins de dommages et intérêts pour les salariés. Ça c'est une chose. Et puis, précarité à vie, puisque les CDD pourront être renouvelés ad vitam aeternam. Plus on nous rajoute les contrats de chantier, contrats de projet, donc c'est installé bon nombre de salariés, je pense aux plus jeunes notamment, dans la précarité. Or, c'est ce dont souffre aujourd'hui la jeunesse et le monde du travail.
CDD, mais vous avez entendu comme moi qu'on allait taxer plus les entreprises qui emploient trop de CDD.
Pour l'instant, on a entendu, mais vous savez, on avait entendu des choses sur les ordonnances et on les a pas vues. Donc effectivement, on parle de bonus-malus d'ailleurs de la part du gouvernement. Malus, d'accord, il faut
mais pas de bonus.
Punir. Il y en a beaucoup des bonus. Vous savez que les entreprises, et notamment les plus grandes, touchent près de 200 milliards d'aides, d'exonérations déjà. Ça fait déjà un sacré bonus. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? 200 milliards d'euros.
Bruno Bonnel, je voudrais rappeler, parce que c'est important de savoir quelle était votre casquette auparavant. Vous étiez chef d'entreprise dans une première vie avant d'être élu pour La République En Marche dans la 6e circonscription du Rhône. J'ai envie de vous poser la question dans le même sens, en fait. J'imagine que vous, c'est à l'inverse. Il y a beaucoup plus de choses qui vous plaisent dans cette loi travail. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous, député et aussi ancien chef d'entreprise, vous vous dites, là, moi, le chef d'entreprise que j'étais, j'aurais peut-être tiqué, honnêtement?
Honnêtement, non. Honnêtement, non. Parce que je pense que la philosophie de ce travail qu'on fait, de la loi travail, des ordonnances n'étant qu'un élément du puzzle complet, la philosophie c'est de redéfinir dans le pour le 21e siècle les conditions de travail. Au lieu d'aller rajouter quelques couches à droite à gauche, là il y a une refondation. Alors je comprends monsieur Martinez qui observe effectivement qu'on est dans un changement de cap, mais il faut comprendre que c'est bien un cap et qu'elle s'associe à un ensemble de mesures qu'on est en train de discuter, la formation professionnelle, l'apprentissage, la réforme après des retraites. Donc je crois qu'on a voulu, pour une fois, rattraper, que la politique a voulu rattraper la réalité du social de l'entreprise d'aujourd'hui. Donc on peut en discuter pendant très longtemps, on en a discuté pendant très longtemps, à l'Assemblée, ailleurs,
dans les concertations.
Dans les concertations, en tout cas, On a essayé d'arriver à quelque chose qui était acceptable et accepté. Et aujourd'hui, je pense que on peut regarder tout le temps dans le rétro.
Vous aurez le droit de répondre, Monsieur Martinez.
Je vous
entends rire dans votre
sottises.
Coin. Allez-y, finissez, Monsieur Bonnel, finissez.
Effectivement, vous pouvez le prendre comme des sottises. Moi, je crois qu'au contraire, en tant que chef d'entreprise qui a expérimenté ça de nombreuses fois, il y a un rationnel. Donc ça, j'ai géré des petites entreprises, j'ai eu des plus grandes entreprises, et donc je crois pouvoir être légitime dans la mécanique de ces entreprises. Et je trouve qu'on a fait un ensemble de décisions qui sont collées. D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. Moi, depuis que je fais de la politique, je découvre que amalgame et exception sont les mamelles de la revendication. C'est-à-dire que on associe, alors il y a des centaines de milliards, moi je sais pas, mais 200 milliards, je sais pas ce que ça représente, c'est une agrégation de plein de trucs, dans tous les sens, du bon comme du mauvais. On nous explique que les indemnités prud'homales, ce ne sont pas les indemnités prud'homales qui ont été encadrées. Les indemnités légales de licenciement ont été augmentées de 25% dans les ordonnances.
Pendant 10 ans.
Non, elles ont été augmentées, c'est un fait, de 25%. Et après, nous encadrons en cas de litige pour que, à la fois, le chef d'entreprise sache à peu près son risque, mais on oublie de dire qu'il y a un plancher. C'est-à-dire que si on s'engage dans une démarche prud'homale, on a quand même une certaine sécurité. Donc, je crois qu'il faut faire attention, M. Martinez.
Si vous permettez, je reprécise, vous dites des sottises, mais je comprends bien quand en ancien homme d'affaires, chef d'entreprise, on a la version du MEDEF, vous voyez.
J'ai jamais été adhérent à aucun syndicat professionnel.
Mais vous parlez comme le MEDEF, ça doit être la suite logique de votre vie précédente.
Chacun ses idéologies.
Moi, je défends les salariés, point. Vous voyez, vous dites que les indemnités ne sont pas plafonnées. Même les indemnités légales sont plafonnées, puisque l'augmentation de 25% ne vaut que pour les 10 premières années. Mais comme c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup discuté des ordonnances à l'Assemblée, vous n'avez peut-être pas eu le temps de les lire jusqu'au bout. Par contre, pour les dommages et intérêts, puisque c'est la deuxième chose dont les juges sont maîtres en cas de conflit du travail, eh bien là, oui, on a plafonné, et ça veut dire que maintenant, on sait combien coûte un licenciement, et on peut le provisionner et le prévoir. Mais vous dites que ça va changer les conditions de travail, ça n'a rien à voir avec les conditions de travail. Ça va libérer l'entreprise, libérer le pouvoir du chef d'entreprise, vous voyez ? C'est ça, les ordonnances. Donc il n'y a aucun équilibre, attendez, il n'y a aucun équilibre dans ces ordonnances, je le répète, c'est tout pouvoir pour les chefs d'entreprise, et je comprends que vous défendiez ce texte, et c'est beaucoup de contraintes pour les salariés, beaucoup de renouvellement de CDD, comme je l'ai précisé, et donc ne mélangeons pas les choses.
Vous considérez que quand on ouvre, par exemple, c'est quand même un chapitre beaucoup plus important.
Expliquez-moi, si vous arrivez à me convaincre, vous savez, je les ai bien étudiées, les ordonnances.
Non mais si on ouvre,
allez-y, Monsieur Bonnel, on prendra une auditrice aussi qui nous attend.
Si on ouvre un dialogue social entre les employés et le chef d'entreprise, en direct, comme c'est prévu dans cette loi travail. Si on encourage à la syndicalisation, vous l'avez précisé, c'était un point important, disant qu'on s'engage en une formation, on essaie d'encourager une meilleure maîtrise de ce dialogue syndical. Ne tournons pas tout en dérision et en noir.
Je m'appuie sur la réalité du monde du travail que je connais un petit peu.
Non mais excusez-nous, mais on pourrait considérer qu'on est à égalité au niveau de la connaissance du travail. J'ai 35 ans d'entreprise.
Oui. Donc, dans le bureau du directeur.
Pas dans le même camp, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que vous êtes là l'un l'autre. Je veux pas qu'on oublie les auditeurs.
Ça s'appelle le téléphone sonne
tout de même. Et c'est Maryse qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Maryse, on vous écoute. Soyez la bienvenue.
Bonsoir France Inter et bonsoir aux auditeurs. Moi, je dois dire que je suis assez en colère et je voudrais revenir sur l'action syndicale qui a été menée depuis le début de l'année. Je vais juste rappeler quelques chiffres. De janvier à juin, il y a eu 14 journées d'action contre la loi El Khomri pour le résultat qu'on connaît, à savoir la loi est passée. Depuis le 12 septembre, on en est à la 12e journée d'action en comptant celle prévue demain. Une conclusion, à quoi servent, sous forme de question, à quoi servent ces journées ? Puisque ça n'apporte aucun résultat. Donc, comment les syndicats en général et la CGT en particulier se refusent de tirer les leçons qui sont celles aujourd'hui? Toutes les catégories sociales sont concernées par la politique menée par ce gouvernement, les fonctionnaires, les salariés, les retraités, les étudiants et à venir les chômeurs et les apprentis. pourquoi les syndicats vont-ils discuter avec ce gouvernement? On voit où mènent ces concertations, entre guillemets, sur la loi travail à l'application des ordonnances. Il faut arrêter les discussions avec le gouvernement et il faut mobiliser réellement la population et unifier le combat contre la politique de Macron. C'est, voilà, parce que tout le monde est concerné.
On a...
Juste une
allez-y,
question
Maryse.
À l'attention de M. Martinez. Vraiment, je suis en colère. À force d'aller discuter et de concerter et de faire ce dialogue syndical, social, etc., n'avez-vous pas le sentiment, en allant donc discuter avec ce gouvernement et ses représentants, de cautionner la politique de ce gouvernement.
Maryse, on a bien compris votre question et Philippe Martinez vous a entendu. Il y a deux niveaux d'ailleurs dans votre question, à la fois sur le type de mobilisation et aussi, en commençant par la fin, ce que vient de dire Maryse, Philippe Martinez, pourquoi vous négociez encore? Pourquoi vous y allez à ces réunions de concertation?
La première chose, je comprends la colère de Maryse parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont de privés d'emploi, de retraités, qui se posent des questions, qui s'interrogent. Il n'y a pas de négociation. Et dire que...
Enfin, il y a eu des rendez-vous réguliers, et il y en aura encore pour... méthode d'ailleurs, pour l'assurance chômage, etc.
N'écrivez pas l'avenir. Pour l'instant, on fait le bilan des concertations qui ont eu lieu, donc c'est pas des négociations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que... on nous l'a reproché d'ailleurs, le gouvernement nous l'a reproché, c'est que la CGT, dès la deuxième réunion, a dit... a dit attention, il y a danger, il faut se mobiliser. Donc on avait déjà alerté, et on nous a reproché de dire, mais vous écrivez l'histoire à l'avance, etc., etc. Ceci dit, il y a besoin que la CGT, elle soit présente dans les endroits où on discute de l'avenir des salariés, parce que ça permet de faire des comptes rendus, ça permet d'expliquer les enjeux, mais en même temps, il faut mobiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a assisté à cette première séquence de concertation. Pour l'avenir, vous le savez, nous avons dit au gouvernement, on vient vous voir pour faire des propositions, comme nous l'avons fait hier, je crois, avec le Premier ministre. Vous nous réunissez tous ensemble pour nous expliquer vos objectifs, et après c'est fini. Chacun, il y aura de la négociation, mais là, entre patronat et syndicat. Mais il faudra quand même de la mobilisation, parce que j'ai un petit peu d'expérience. Et malgré tous les bons arguments de la CGT, on n'a jamais réussi à convaincre un patron que nos propositions étaient les meilleures, sans que les salariés s'en mêlent, et c'est ce qu'on propose de faire.
Mais pour ce qui va se passer dans l'avenir, c'est-à-dire effectivement assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, etc., la méthode sera la même. Il y aura un grand rendez-vous, effectivement, à un moment, et après, ce sera des bilatérales, si vous voulez. Est-ce que cette méthode-là vous convient?
Je vous le redis, donc, si ça peut rassurer Maryse, tant mieux. C'est que nous avons dit au gouvernement, on ne recommencera pas la même chose que la dernière fois. Je vous le redis, il y aura un rendez-vous pour que la CGT dépose ses propositions, parce que nous avons des tonnes de propositions, il faut le rappeler. Le gouvernement les étudiera, il nous fera un compte-rendu au multilatéral, et de toute façon, sur un certain nombre de sujets que vous évoquez, la négociation, elle se fait entre patronat et direction. Donc il y a besoin d'être présent là où on discute de l'avenir des salariés, mais la mobilisation, elle reste d'actualité.
Monsieur Baudel, vous allez pouvoir évidemment répondre dans un instant. Une dernière, Monsieur Martinez, parce que... Justement, parce que c'est pour ça que je voulais revenir un instant sur ce que disait Maryse, qui parle de 14 journées d'action, effectivement, avant la loi El Khomri. Elle en a compté 12, là, depuis le début de l'année. Je ne sais pas s'il y a eu 12, peut-être un peu beaucoup.
C'est le 12 septembre, 12, mais
voilà,
c'est pas
ça.
12.
Il n'y a pas eu 12 mobilisations. Non, mais... il y a eu quand même un certain nombre. Le fameux troisième tour social, ceci dit, dont vous parlez, n'a pas eu lieu.
Philippe
Martinez,
c'est des formules des médias. Vous avez déjà jamais entendu la CGT parler de troisième tour social.
Mais je vois qu'elle est toute seule dans la rue demain, quand même. Il n'y a pas de front syndical uni.
Ça, c'est un problème. Et vous savez que la CGT fait tout ce qu'elle peut pour que l'ensemble des syndicats qui sont tous contre, je vous le rappelle, la nouvelle loi Macron, ce qu'il n'a pas pu faire l'année dernière, d'ailleurs, puisqu'il était au gouvernement, il y a besoin d'unité syndicale. Personne n'est d'accord.
Non, mais pourquoi ça marche pas, Monsieur Martinez?
Ça, c'est pas à moi qu'il faut le poser la question. Nous, on se bat, et vous savez qu'on a été à l'initiative d'une réunion, on se bat pour que cette unité syndicale se fasse. Mais derrière la question de Maryse, il y a des choses à voir. Comment on transforme des mécontents? J'en croise tous les jours. J'arrive pas à trouver.
Et moi, des contents.
Ouais, mais parce que vous fréquentez ceux que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire les hommes d'affaires et les patrons,
et moi je fréquente
le monde du travail, les privés d'emploi.
J'ai une circonscription qui est populaire où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de chômage.
Ouvrir une permanence, ça vous permet de, parce que vous avez toujours pas de permanence, ça vous permet de recevoir et les citoyens et les syndicats qui souhaitent vous expliquer. Je ferme cette parenthèse.
Donc ne vous inquiétez pas, je reçois et je vois des gens.
Bruno Bonnel, dans un instant.
Il y a besoin donc que tous ceux qui sont en colère, et ils sont nombreux, eh bien transforme cette colère en mobilisation. Sauf que le monde du travail est éclaté, il y a des précaires, et vous savez, quand on est précaire, dire à son patron, je vais à la manif ou je fais grève, c'est la porte directe. Il y a les intérimaires, il y a les contractuels, etc. Il faut qu'on fédère tout ça, ces mécontentements, et que ça se transforme en action. Eh ben, c'est ce à quoi on travaille, on explique, on discute, il faut donner confiance. Et je pense que les mobilisations, il faut qu'elles se fassent à l'entreprise et que régulièrement, on puisse se retrouver. Les fonctionnaires ont fait par exemple une très bonne journée d'action la semaine dernière. Eh bien, ça doit pouvoir se conjuguer demain ou dans les jours, enfin demain, plutôt dans les jours qui viennent, sur des convergences entre le public et le privé, entre chômeurs
et actifs. Sur des sujets variés, voilà. Sur de l'amalgame, et comme je le disais tout à l'heure.
Il n'y a pas d'amalgame. Les gens ne sont pas des imbéciles, ils comprennent très bien.
Vous savez, quand M. Macron supprime
l'impôt sur la fortune, ils ont compris ce que ça voulait dire.
Je respecte nos concitoyens autant que vous. On va déjà se mettre sur cette base de travail, parce que sinon, effectivement, on va être tous les deux dans une posture, et on n'avancera pas. Notre philosophie, c'est qu'il vaut mieux pour discuter être autour d'une table que la renverser. Votre philosophie, c'est la renverser. Alors, je comprends votre frustration à pas réussir à réunir assez de monde dans la rue pour la renverser. Il n'empêche que nous avons décrit un programme présidentiel précis. Les Français ont élu Emmanuel Macron. Nous suivons ce programme en concertation et en discussion, parce que c'est la méthode qui a été choisie par le gouvernement. Que vous choisissiez aujourd'hui de quitter la table, c'est un choix. Moi, je pense qu'il est plus important d'être autour de la table pour faire valoir ses points et les faire avancer.
Monsieur Bonnel, c'est pas une table, c'est plusieurs tables. Est-ce que la méthodologie, en fait, pourquoi cette méthodologie différente, c'est-à-dire tout le monde en one-to-one, un syndicat et le gouvernement, l'un de ses représentants, un syndicat et pas tout le monde à la fois.
Et est-ce qu'on pourrait pas l'aborder sous un autre angle, qui est de dire ça donne plus de temps à chacun de s'exprimer et donner son point de vue.
Bilatéral, pardon, c'est le mot que je cherchais.
Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin en disant ben oui, ça donne plus de temps pour développer un point de vue par rapport à des spécificités syndicales qui sont clairement exprimées. Certains syndicats sont plus concentrés sur certaines catégories de travail ou certains secteurs. Moi, je trouve que cette idée d'ouvrir la porte, de tendre la main, de discuter pour construire dans le cadre d'un programme qui a été expliqué aux Français est intéressant. La vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est est-ce que nous n'avons pas mûri et que cette revendication dans la rue qui finalement est une démonstration de force qui, en ce moment, reconnaissons-le, atteint un certain nombre de limites et les excuses sur la précarité. Si les gens avaient une motivation, moi je respecte énormément les gens qui s'expriment et je respecte énormément la colère. Laissez-moi terminer, monsieur Martin.
Vous connaissez un salarié en CDD qui dit à son patron je vais à la manif, je reviens.
Nous vivons sur la même planète.
En tout cas, pas dans le même monde.
En tout cas, nous vivons sur le même territoire. Et c'est le territoire, c'est la France. Je crois que si nous avons, si nous ouvrons la porte et nous discutons en face à face, puis, probablement dans des discussions élargies, c'est une méthode qui va permettre d'avancer et de discuter dans le cadre d'un programme qu'on a précisé. Il n'y a pas de surprise à attendre. Je crois que c'est la méthodologie que vous avez choisi d'aller dans la rue qui, pour le moment, connaît une relative déception qui vous pousse à aller vers ce que vous appelez la convergence des forces sur des amalgames de gens qui ont des intérêts différents et qui finalement convergent vers une moins de justification que des gens qui seraient plus ciblés.
Un mot, Philippe Martinez, et puis Ronan nous attend au standard.
Allons-y alors.
Ronan, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Bonjour à vous, bonsoir.
Moi, je voulais apporter un témoignage. En fait, on a déjà eu un exemple de tout ce qui était négociation en entreprise avec la boîte sur les 35 heures et tous les accords. Donc moi, j'ai été délégué du personnel donc à cette époque-là pendant à peu près 6 ans dans une entreprise du service informatique, donc, niveau cadre, etc. Et donc au départ, on avait un patron qui était assez ouvert à la discussion, donc on avait réussi à négocier un accord. On n'avait pas nos 22 jours comme le prévoyait 35 heures, hein, 39 moins 4, c'est les 22 jours à l'année. On avait 12 jours, plus, en fonction des résultats de l'entreprise, un jour supplémentaire chaque année. Donc quelque chose qui tenait compte des contraintes économiques. et puis les pressions du secteur, l'informatique, tout ça, alors que la conduite économique était bonne, et bien d'année en année, le patron, pourtant ouvert, nous a demandé de réduire. Donc on a trouvé des solutions, au départ on plafonnait, ensuite on gelait, ensuite on a réduit, quoi. Et voilà, et donc en fin de compte, à chaque fois qu'il y a une négociation en entreprise, ce ne sont que des reculs. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et au final, dans le secteur du service informatique, ce que je vois aujourd'hui, c'est que voilà, les trois quarts des sociétés de taille moyenne se retrouvent en fait avec des forfaits annuels horaires où chacun se retrouve avec 6 jours donc, au maximum. Donc voilà, pour moi, mon témoignage, c'est que le dialogue en entreprise, et pourtant voilà, on n'est pas dans l'industrie lourde, dure, brutale, on est dans le service informatique. Le dialogue en entreprise, en fait, ça ne marche pas. Quoi. C'est si la loi n'est pas derrière pour nous protéger et pour guider les discussions, eh bien, on va toujours au moins 10 ans.
J'entends ce que vous dites, Ronan, sur la géométrie variable, finalement, de ce que vous pouvez obtenir à l'intérieur de l'entreprise et des accords à la carte. Bruno Bonnel, c'est ça le risque? C'est ce que disent beaucoup d'appels et beaucoup de salariés qui craignent pour ces accords, donc uniquement à l'intérieur de l'entreprise?
Vous savez, un accord d'entreprise, c'est une réalité de l'entreprise, c'est un marché. Alors, je connais pas les circonstances précises.
Mais vous dites à un
instant
T, c'est ça que ça veut dire.
Non, mais
je
veux dire, par rapport à l'exemple que cite monsieur, je ne connais pas le contexte. Il faudrait regarder un petit peu plus précisément le contexte. Je pense qu'on ne peut pas le résumer à une position d'un employeur qui veut simplement durcir et aller vers le moins 10 ans. Il y a peut-être un contexte économique qui faisait que la concurrence, la difficulté à avoir des marchés...
C'est ce que dit Ronan, oui. Enfin, il y a la
vie. Ce que nous cherchons, c'est de l'agilité et de la flexibilité dans l'entreprise, tout en protégeant une chose essentielle qui est l'emploi. Donc, on préfère dire aux employés, et ce serait la logique, en tant que chef d'entreprise, c'est comme ça que je réagirais, je préfère dire, voilà la situation réelle, voilà comment ça se passe, et c'est pour ça que nous invitons également à reparler de ces histoires d'intéressement, de participation, etc., pour dire, si la valeur augmente, essayons de trouver une meilleure solution de partage, mais quand la réalité de l'entreprise est en face de nous, trouvons aussi les moyens de passer ces caps plus difficiles. Donc, ce n'est pas simplement du pragmatisme. Une entreprise, c'est un équipage, c'est une aventure humaine. Vous savez, cette qualification de patron, personnellement, moi, je ne la connais pas. Moi, je suis un chef d'entreprise, je suis un entrepreneur, c'est une terminologie qui est nouvelle. Non mais, c'est important comme nuance, parce que ça veut dire que, dans des temps anciens, il y avait ce fameux rapport de subordination.
Laissez-moi terminer. Je peux vous laisser continuer à dire des bêtises. Il n'existe
non, mais
plus.
Après
le
des sottises, des bêtises. Je progresse dans la vocabulaire.
Allez-y, cherchez un autre truc.
Le lien de subordination n'existe plus.
Laissez-moi juste terminer. Je veux dire qu'aujourd'hui, notamment dans les sociétés de services informatiques que je connais bien, vous avez une fluidité des gens et un respect des gens, des projets d'entreprise. Donc là, il y a un rapport qui est complètement nouveau. Ce que je essaye de vous dire, c'est que il n'y a pas un chef d'entreprise tout puissant qui décide et décrète. Il y a un véritable dialogue qui peut s'instaurer et nous faisons ce pari. Dans les temps plus difficiles, c'est plus contraignant. Il faut, en compensation, et je suis bien d'accord, je n'ai pas dit en même temps, il faut en compensation, quand les temps sont meilleurs, retrouver du partage de la valeur ou du temps libre ou des accords plus souples.
Philippe Martinez, réalité de l'entreprise, fluidité, ce sont les mots qu'on entend.
D'accord, mais la réalité de l'entreprise, on les connaît les réalités d'entreprise. Le problème, c'est que là, on organise le dumping social, parce que quand il n'y a plus de règles collectives, et l'exemple de Ronan, c'est un grand classique. Quand il n'y a plus de règles collectives, on casse le code du travail, on casse les conventions collectives, chacun fait ce qu'il veut, et donc
la protection de la loi. Hein.
Quand chacun fait ce qu'il veut, eh bien on organise le dumping social. Et évidemment, on dit, vous avez vu, dans l'entreprise d'à côté, on a négocié un accord qui prévoit qu'on va gagner moins et qu'on va travailler plus. Si vous ne faites pas la même chose, la conjoncture, vous comprenez, etc. Donc, on organise le dumping social et après, on s'étonne et on parle de la loi du marché, enfin, des termes que vous utilisez. C'est pas possible. Mais des exemples comme ça, Smart, vous vous souvenez de Smart? On leur avait dit...
Grosse entreprise que celle dont on nous parlait
dans une autre industrie. Une autre industrie. On leur avait dit, pour sauver votre boîte, il faut travailler plus et gagner moins. Et là, vous allez voir. Eh bien, 2 ans après, On leur fait la même chose. J'étais à Smart il y a peu de temps, j'étais allé rencontrer les salariés. On leur refait le coup. Ah mais vous savez la conjoncture. Donc c'est une chaîne sans fin. Et on trouvera toujours...
Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Votre alternative proposée c'est quoi? C'est qu'on ne bouge rien, on bloque la France pour la faire avancer, le problème, on la met dans la rue pour essayer de dire qu'il faut faire autre chose sans proposer de solution.
Vous prétendez de la transformation, mais c'est des recettes qui sont appliquées depuis des décennies. Vous savez, on a beau avoir 39 ans, on peut avoir des très vieilles idées dans la tête, et c'est le problème du président de la République et de quelques députés comme vous. Vous appliquez les mêmes méthodes qui ont conduit à ce qu'il y ait autant de chômeurs, c'est-à-dire on casse les règles collectives.
Non mais évidemment, concrètement, les bonnes méthodes seraient quoi?
Les bonnes méthodes, premièrement, c'est de ne pas toucher au droit du travail, parce qu'il n'y a aucun...
Ça ne changerait rien, donc si on ne change rien, et on a vu que ça avait très bien marché dans les 30 dernières années.
Il n'y a aucun lien entre droit du travail et montée du chômage, premièrement. Et c'est pas, il n'y a pas que la CGT qui le dit, hein.
Non.
L'OCDE, même le FMI.
Je vous répète que c'est qu'une pièce du puzzle, c'est essentiel à le comprendre.
Oui, mais vous commencez par ça.
Ben oui, il fallait bien commencer par quelque part.
Il faut libérer le travail. Moi, je vous dis, droit du travail et chômage, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que le droit du travail est fort. Regardez dans des pays, dans d'autres pays, des pays émergents, quand on casse le droit du travail, ça développe le travail informel. Et même dans des pays autour de nous, vous savez, en Italie, avec une loi travail, elle s'appelait pas Macron, hein, elle s'appelait Renzi. Eh bien, ça a développé le travail informel. Parce que on donne aux chômeurs des coupons de travail.
Moi, je vous fais le crédit de savoir que vous soyez vous parler. C'est intéressant.
On donne aux chômeurs des coupons de travail d'une heure, donc ils sont plus dans les statistiques. Et le patron leur dit, bon, pour une heure, je vous paye et je paye mes cotisations. Puis pour le reste, si on s'arrange. Donc c'est ça le travail informel. Alors évidemment, les statistiques ont baissé. Mais est-ce que c'est un avenir qu'on construit? Par contre, comment on fait en sorte qu'on voit mieux les réalités, on anticipe les réalités des entreprises? Nous, on se bat parce que, par exemple, pour qu'il y ait un lien entre donneurs d'ordre et sous-traitants, pour que ensemble, tous ceux qui créent la chaîne de valeur, on ait des perspectives. On se dit, voilà, dans
ça,
les années à venir...
C'est la vie quotidienne de l'entreprise. Vous croyez qu'un chef d'entreprise ne pense pas ça? Il ne réfléchit pas en fonction de son marché, de ses clients, de ses fournisseurs. Il ne contrôle... Non, attendez, là, on n'est pas en train de parler du sujet de notre auditeur. On est en train de dire, il faudrait augmenter le fameux carnet de commandes. Chaque chef d'entreprise qui est sérieux ne pense qu'à ça, à augmenter son carnet de commandes. Donc, c'est pas un programme politique, ça.
Mais la question, pardonnez-moi, monsieur Bonnel, la question, et c'était en creux celle de Ronan, est-ce que la loi travail va résorber le chômage en France? A été posée depuis que les négociations ont commencé, elle revient régulièrement, y compris dans le point FR et y compris dans les appels au 0145-24-7000.
La loi travail seule, non. Mais par contre, le PULSE qui est constitué par reformer des jeunes ou des gens en grande difficulté ou des chômeurs longue durée, rétablir une formation d'apprentissage qui redonne de la noblesse et de la valeur au geste, pour qu'un boulanger, un plombier soit aussi bien considéré que quelqu'un qui travaille dans un bureau, par exemple. Relancer une protection chômage plus large pour des gens qui osent entreprendre, pour les artisans, pour les commerçants. Ça, effectivement, nous pensons que c'est un programme qui peut relancer l'emploi. Si on regarde juste, effectivement, une pièce du puzzle en disant ce n'est pas la solution à l'équation, mais on a parfaitement raison. Parce que c'est l'ensemble du programme que nous proposons qui aura sa cohérence pour la réussite de l'emploi.
Et je voudrais qu'on écoute Vincent qui nous appelle au 01 45 24 7000 et qui patiente depuis un bout de temps. Bonsoir Vincent, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir et merci de prendre ma question. Voilà, je suis cadre dans l'industrie aéronautique à Toulouse. Ça fait 10 ans que je travaille, sauf que je travaille uniquement en intérim par choix. J'ai fait plus de 19 missions en 10 ans avec des périodes d'intercontrat de un mois maximum. Aujourd'hui, à 32 ans, j'aimerais bien acheter une maison, sauf que les banques refusent systématiquement de me faire un crédit au prétexte que je suis uniquement en intérim. Et pourtant, je suis assez raisonnable dans ce que je demande comme crédit et j'ai des salaires de cadre, donc bon, techniquement, ça passe. Aujourd'hui, je me dis, voilà, les CDD vont être recommandés et peut-être encouragés aussi par ces lois travail. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que la société s'adapte aussi à ces nouvelles façons de travailler qui vont être sûrement encouragées. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour votre question. Merci Vincent. Bruno Bonnel, ça c'est une question pour vous, effectivement.
Alors, non seulement c'est une question pour moi, mais c'est une question. Non, mais c'est une question. Madame disait c'est une question pour moi. Je me permettais de la relancer.
Une question pour Vincent.
On va pas faire de chaque phrase
allez-y.
Une agression.
Allez-y, monsieur Bonnel.
C'est un sujet essentiel.
Bah oui.
C'est un sujet essentiel. Parce que, bon, déjà, je ne suis pas
du tout
convaincu.
Ça vaut pour intérim, ça vaut pour CDD, absolument. Ça vaut pour CDI de chantier.
Je ne suis absolument pas convaincu que cette loi travail développe plus particulièrement le CDD ou la précarité. Ça, c'est l'avis de Monsieur Martinez. Moi, je pense que le CDI reste la clé.
Vous les avez lus,
j'y ai passé quelques nuits.
Ah bon.
Ceci dit, ce que dit Vincent est juste.
Je suis pas sûr que vous l'ayez bien
essayer
lu.
De répondre à Monsieur
ce que
Vincent.
Dit Vincent, c'est comment on accompagne.
Je pense qu'il pose une très bonne question, à savoir que il faudra réfléchir à des dispositifs et nous y travaillons. Alors, pour vous faire une petite confidence, Monsieur Martinez, il existe un groupe à l'Assemblée informelle de la République En Marche qui travaille sur les TPE, PME et sur comment on pourrait effectivement régler un certain nombre de problèmes de ce type-là. Pour le moment, ce groupe est informel parce qu'il va rentrer dans une phase de proposition. Parce que la force politique que nous avons aujourd'hui, alors on l'a beaucoup raillé dans sa première phase d'éducation, elle va apporter maintenant son expertise et sa compétence. Et ça, notamment, ces discussions avec le monde bancaire, avec le monde de l'assurance, pour voir comment on peut organiser de façon intelligente les prêts bancaires, les prêts de voitures, les prêts pour les voitures, la possibilité de se loger avec une garantie. Tout ce dispositif, il doit rentrer effectivement dans la loi à un moment donné. Alors, autant zéro, si nous parlons aujourd'hui des ordonnances, je n'ai pas de réponse pour Vincent en instantané. Ce que je veux dire, c'est que c'est un problème qui a été identifié, sur lequel nous travaillons, et je suis certain qu'il y aura des propositions dans ce sens dans les mois qui viennent.
Philippe Martinez.
En attendant que le...
Il faut bien un peu
en
donner
attendant que le groupe informel trouve des solutions. Vous savez, là, Vincent, Ronan, ça c'est la vraie vie.
Mais je la connais, la vraie vie. C'est bien pour ça qu'on l'a identifié.
Ça c'est la vraie vie. Et donc, là, quand on est précaire, quand on est intérimaire, la vie, on a du mal à rentrer dedans parce que pas de crédit pour se loger, etc., etc.
Mais c'est ce qu'il vient de dire.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Et ça c'est la vraie vie. Et comme les ordonnances vont renforcer la précarité, parce que vous savez que les CDD vont pouvoir être renouvelés autant de fois qu'on voudra.
Non, ça c'est une affirmation que vous faites. Vous partez du principe que
c'est
on va
dans
partir
les ordonnances.
Avec des mécanismes de bonus-malus. Vous l'avez dit, sur lequel il y aura des.
Sortez du groupe informel et allez à l'Assemblée lire les ordonnances, parce que là vous passez trop de temps dans votre groupe informel. Le contrat de chantier, ça existe déjà d'ailleurs.
Évidemment.
Ça existe déjà. Et donc, allez discuter avec les salariés qui subissent des contrats de chantier. Ils disent, on peut rien construire dans notre vie. Parce que le contrat de chantier, on sait quand est-ce qu'on commence, on sait pas quand est-ce qu'on finit, on peut être viré du jour au lendemain. Comment, quand on va voir son banquier, non, on lui dit,
Martinez,
vous ne vous inquiétez pas, j'ai un contrat de chantier. Même, d'ailleurs, Vincent a eu raison de le dire, même quand on est cadre, où on gagne un peu, on est un peu moins mal payé que les autres.
Je vous repose la même question. Oui. Qu'est-ce que vous proposez à Vincent aujourd'hui? On ne change pas le droit du travail. Qu'est-ce que vous lui proposez?
Si,
vous
avez changé, il faut changer
maintenant.
Le droit du travail, mais.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, on ne change rien.
Là, Vincent, pour vous départager, Vincent est intérimaire, mais par choix.
Par choix.
Oui, non, mais.
Par choix.
Il y en a un certain nombre, peu, qui sont par choix. Mais à un moment, ce choix, il a des limites parce qu'on veut.
Acheter une maison.
Non, mais je repose la question. On
monsieur,
ne change rien. Il monsieur, se passe quoi,
monsieur?
Parce que monsieur Vincent, en l'occurrence, pose une question.
Je vous ai dit que il fallait conforter le droit du travail. Et vous savez, parce que vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe autour de vous, que la CGT a été à ses concertations avec un code du travail beaucoup moins épais, mais qui renforçait les droits. Nous proposons, par exemple, une sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire que, quels que soient les accidents de la vie, comme on dit, on ne remet pas en cause ni le salaire d'un salarié, parce que quand on a 40 ans et qu'on se retrouve au chômage, son expérience, elle doit être préservée, de façon à ce que, quand on retrouve du boulot, on ne reparte pas à zéro. Ça, c'est une proposition de la CGT. Il faut renforcer, il faut limiter les CDD, il faut limiter la durée.
Mais il y a des réalités d'entreprise, des mécaniques, il y a des entreprises qui travaillent sur des... Regardez, monsieur, encore une fois, Vincent, il fonctionne parce que c'est son choix de vie. Je comprends qu'il ait ses contraintes bancaires, assurantielles, etc.
Monsieur,
ce moment-là, il va falloir lui trouver des solutions. Monsieur, mais il faut bien commencer à bouger les pièces.
J'en connais, ces choix de vie, c'est quand même pas la majorité, mais ces choix de vie, ça va les premières années.
Tout comme Smart n'est pas la majorité, tout comme des patrons voyous, c'est pas la majorité. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, exception et amalgame, c'est les mamelles de la revendication. Il faut qu'on essaye de travailler pour faire avancer la France.
Et je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, messieurs, je voudrais qu'on écoute Annie. Tiens, on va complètement changer de registre. Annie, bonsoir, soyez la bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y, Annie.
Écoute, voilà, je suis Annie, donc je travaille depuis, j'ai 60 ans, je travaille depuis l'âge de 25 ans, j'ai été salariée pendant 15 ans et j'ai créé mon propre emploi depuis 20 ans maintenant. Et j'accompagne les start-up, les TPE, les PME dans leur développement, sur leur gestion, leurs finances. et je suis un petit peu, je suis très surprise que qu'on écoute à ce point Monsieur Martinez. Moi, je suis très contente des ordonnances. Je suis très contente qu'on ait enfin un président qui comprenne que la formation professionnelle, c'est très important parce qu'on va changer de travail plusieurs fois dans sa vie et que la formation, ça va aider à se recentrer sur un nouvel emploi. Je travaille avec des start-up, avec des jeunes, et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure le représentant de La République En Marche. Dans une entreprise, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de différence entre le patron, qui est un terme pour moi du 19e siècle, hein, entre le chef d'entreprise et les salariés. Tout le monde travaille en équipe. Moi, je suis entourée de gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui travaillent. Qui sont très contents de ce qui se passe et de voir qu'enfin on va faire bouger les choses. À entendre Monsieur Martinez, il est urgent de ne rien faire, ne changeons rien, laissons les choses comme elles sont depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on s'installe dans du chômage et on aide les gens sans les aider, on les aide bien sûr, et je pense qu'il faut garder une protection pour pour les personnes qui perdent leur emploi, mais pour autant, il faut les former et c'est très important.
Annie, merci.
Moi, je suis très contente de ce qui se passe, en fait.
Merci.
Je suis entourée de gens qui pensent comme moi.
On a entendu que vous étiez contente, Philippe
merci.
Martinez, puisque c'est à vous qu'on s'adresse directement,
oui,
qu'Annie s'adresse directement.
Je conçois qu'il y ait des gens heureux.
Patron, le terme du 19e siècle.
Oui, enfin,
on ne change pas depuis 30 ans.
Oui. Vous savez, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Merci Patron. Il a eu un franc succès. Tout le monde sait ce que c'est qu'un patron. Je le répète, la CGT fait des propositions.
Non, tout le monde. C'est un film, comme vous dites. C'est intéressant.
La CGT fait des propositions. Elle a proposé de moderniser le code du travail, de le réduire, mais de renforcer les droits des salariés. Il faut des droits. La CGT fait des propositions en matière de formation professionnelle, parce que oui, il y a un problème de formation professionnelle.
Et c'est pour ça qu'il faut venir à la table de concertation.
C'est pour ça que la CGT va faire des propositions, parce que, mais il faut d'abord s'occuper de la formation initiale.
Ensuite,
il faut s'occuper de la formation continue. Parce que il faut être formé quand on est au travail, parce que si on n'est pas formé pendant sa période de travail qu'on se retrouve au chômage,
d'où la logique de l'apprentissage et de la formation.
Non, l'apprentissage c'est avant, la formation professionnelle c'est durant.
Pourquoi ça serait ça? Vous savez, on n'est plus dans les éducations de stock où on apprend quelque chose et on l'épuise sur sa vie. On est dans une éducation de flux, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter toute notre vie.
Formation professionnelle pour ceux qui travaillent, apprentissage pour ceux qui ne travaillent pas encore, par exemple.
L'apprentissage c'est avant de trouver du boulot, pour trouver du boulot, et ensuite la formation professionnelle c'est quand on a un boulot, c'est tout au long de sa vie, la formation continue, donc on a des propositions. Mais si ce que vous proposez, et en gros, c'est ce que je comprends, c'est de continuer ce qui se faisait avant, on n'est pas d'accord, parce que les résultats, on les voit, ils sont
concrets.
Justement,
ça, c'était pas ma proposition.
Et on savait qu'on ne vous mettrait pas d'accord, mais on a été ravis de vous entendre tous les
deux,
Philippe Martinez, merci beaucoup,
merci
Bruno Bonnel aussi.